Alors là, chat
Quand je
vidéo,
vous partage,
ouais.
hein, si vous faites vous partager l'écran.
Mais ce truc, c'est que moi, je n'arrive pas à mettre partager l'écran. L'animateur a désactivé. C'est fou ça. Je sais pas pourquoi ça s'est bloqué comme ça.
Ah, vous non plus, vous n'avez pas partagé
Bah ouais, c'est
l'écran.
pour ça, ouais.
Non, à mon avis, c'est des paramètres qui ont été bloqués en amont.
Ouais.
Et je vois pas comment nous, parce qu'on n'est pas les, on n'est pas les patrons en fait de la.
Enfin, quand on a des réunions, tu le fais couramment, partager l'écran avec d'autres
Ah, moi, jamais.
Alors, essayons.
Donc, sinon, tant pis,
Ouais,
hein, je
pardon.
dirais d'après deux,
Là, on
d'après
appuie
deux.
là-dessus, simplement. Agrandir, conserver. Non, là, c'est bon. Activer contrôle à distance. Non, on va côte à côte. On va tenter ça, soit avec galerie. Comme ça, on va essayer de la mettre en galerie si c'est possible. Partager automatiquement. Bah non, parce que ça amène directement sur le bureau. Automatiquement le bureau, ah mince. Ouais, là par contre, je bloque, j'ai pas. Je suis un expert de zone,
Bon.
je suis désolé. mode de capture d'écran, non, capture d'écran. Partage d'écran, il est coché pourtant. Mais si on le décoche, on revient ici. Là, il est désactivé. C'est jamais, hein, sur un petit malentendu. Hop. Sinon, après, je
Non mais
pense.
la question est d'être l'animateur de la session. Et
Si vous n'êtes pas du coup l'animateur, là,
je
de.
pense pas.
Ouais, bah ouais, bah c'est ça, alors du coup c'est coincé. Tant que c'est pas
Ah,
l'accrédit.
c'est Gérard, c'est le lien de Gérard.
Mais
Quoi que, ouais,
vraisemblablement, oui.
c'est vrai qu'il y a marqué deux participants. Donc, il n'y a pas
Ouais.
marqué.
Vous et moi.
Ouais, il n'y a pas marqué créateur ou hébergeur ou.
Le patron.
Ouais, le boss. Alors, du coup, juste pour partager, ça va être compliqué. Par contre, bah, du coup, là, on est sur la première diapo. Et si vous voulez suivre aussi de votre côté, on peut faire comme ça. Je pense que ce sera plus simple.
Donc j'ai dit diapo suivante.
Je pense que ce sera plus simple.
Et qui fait
Voilà.
ça?
Si vous
Et
voulez juste consommer la petite verpette pour le coup, là.
D'accord.
Et de toute façon, en fonction de ce que je suis en train de dire, normalement, vous devriez comprendre si vous êtes sur la bonne diapo ou pas.
Oui,
Là,
oui.
vous présumez peut-être beaucoup. Alors, 2 minutes que la zapette pour changer la diapo arrive et je fais votre présentation.
Mais à mon avis, tu peux commencer avec ça.
Non, celui-là, il marche pas.
Je sors un petit truc. C'est reparti. Attends, j'arrive. Allez, hop, on remballe. Alors voilà. Du coup, Julien, là, pour passer à la prochaine. Ça, c'est pour passer à la prochaine. Allez, on est reparti. Là, c'est pour passer à la prochaine
oui.
serveur et commencer à faire, tout simplement. Voilà. Et vous pouvez remonter à la slide d'avant juste avec ça.
D'accord.
C'est good?
D'accord.
Et vous pouvez même régler le son, comme ça, même pas besoin de revenir ici si elle parle trop fort ou pas. Vous avez ici. Le
Ok,
petit plus, c'est bon.
très bien.
On est tout bon?
Très bien, merci beaucoup.
Ah, il n'y a pas de souci.
Merci, merci.
Donc, rebonjour à tous, on va y arriver. Toujours est-il réglage technique. Je vous présente donc notre intervenante de cet après-midi, Sylvie Mathély. Sylvie Mathély est économiste, elle est a priori spécialisée dans l'économie internationale et même l'économie internationale en matière de défense. Je pense que c'est un sujet qui a gagné beaucoup d'intérêt récemment. Ah bon? Je recommence alors. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter notre intervenante de cet après-midi, Sylvie Mathély, qui est économiste spécialisée dans le domaine international et même plus particulièrement en matière de défense, ce qui est certainement un domaine qui a gagné en intérêt récemment. Et elle a donc été longtemps à l'Institut des relations internationales et stratégiques où elle a été présidente adjointe. Mais depuis 2023, elle est devenue présidente de l'Institut Jacques Delors. Si vous connaissez l'Institut Jacques Delors, c'est un think tank européen que Jacques Delors a fondé en 1996 et qui est un des lieux où se pensent justement les enjeux européens. Et donc, on a entendu ce matin M. Soler, qui nous a fait un tableau très général sur les questions d'alimentation avec ce que ça pose comme question de sécurité, de production, d'alimentation, de consommation, etc. Et lui a déjà indiqué que, bien évidemment, ces questions-là avaient aussi toute une dimension européenne. Donc, aujourd'hui, avec ces climatériques, on va voir un petit peu, entre la PAC, la politique agricole commune, le pacte vert, qui voulait justement verdir l'économie, mais aussi l'agriculture, les accords de commerce international pour lesquels l'Europe est compétente, quel équilibre peut-on trouver? Je laisse la parole à Sylvie Matéli.
Merci, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien?
Très bien.
Et vous? Parfait. Et j'espère que ma présentation est projetée devant vous. Moi je ne vois pas, mais on va essayer de faire mieux. Donc effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler de la PAC, entre PAC et Pacte Vert, quels enjeux de sécurité et de souveraineté alimentaire. L'Union européenne face à un jeu d'équilibriste, on va essayer de voir ensemble combien l'équation qui est présentée à l'Union européenne n'est pas des plus évidentes. Alors, dans ma présentation, et je passe tout de suite à la diapositive numéro 2 sur le déroulé de ma présentation, donc on va un petit peu parler de la PAC, revenir sur les fondamentaux, c'est quoi la PAC, qu'est-ce que ça nous dit sur l'intégration européenne, puis on abordera la question des enjeux. Des enjeux actuels auxquels fait face la PAC, bien évidemment la sécurité et la souveraineté alimentaire d'un côté, et puis le défi climatique et les défis environnementaux de l'autre, et on reviendra plus précisément sur le pacte vert et sa politique agricole commune et la façon dont ça s'est devenu un jeu d'équilibre pour l'Union européenne et les leaders politiques européens. Donc, troisième diapo, c'est l'annonce de la première partie. Sur la PAC, la politique agricole commune, deux fois par le ton, et sans tarder, je passe sur la quatrième diapo, le contexte historique de cette politique agricole commune. Alors, la politique agricole commune, vous le savez probablement tous, et pour rappel si nécessaire, elle a été créée en 1962, on est juste après la Seconde Guerre mondiale, on est dans une période qui est une période de reconstruction de l'Europe, à tous les sens du terme, reconstruction de l'Europe, une Europe qui n'est pas autosuffisante sur le plan alimentaire, parce que les retards pris par la guerre, parce que une agriculture qui ne s'est pas modernisée, et donc qui n'est pas en capacité de nourrir toute sa population en Europe, et puis l'Europe est également en période de construction avec la communauté économique européenne. Le traité de Rome, pour rappel, a été signé en 1957. Et je vous rappelle que le traité de Rome a été signé en 1957 parce que ce qu'on avait essayé de faire dans un premier temps, et le projet européen dans un premier temps, c'est un projet, c'est une banalité que de le dire, mais c'est important de mettre une réalité derrière les mots, c'est un projet de paix. Donc au départ, dans le projet d'intégration européenne, il y avait essentiellement l'idée de penser une intégration régionale qui, par tous les moyens, permettrait d'éviter la guerre. Donc on avait commencé en 1953 avec la communauté économique du charbon et d'acier, avec une façon de se dire, voilà, si on commence à collaborer sur le charbon et sur l'acier, ben, on pourra plus fabriquer des armements sans que l'autre le sache, et donc on pourra finalement plus se réarmer sans que l'autre le sache, et avant que le réarmement ne soit effectif, eh bien, on aura pu négocier, travailler ensemble pour essayer d'éviter le pire. Donc cette communauté économique du charbon et de l'acier est signée en 1953, et rappelez-vous, hein, dans la foulée, on imagine une communauté européenne de la défense que les Français rejetteront, que le Parlement français rejettera pour des tas de raisons, c'est pas notre sujet. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est à ce moment-là, après l'échec de cette communauté européenne de la défense, qu'on se dit au fond, les questions stratégiques sont probablement des questions beaucoup trop sensibles pour les Européens pour qu'on puisse avancer. Donc il faut imaginer se repositionner sur d'autres sujets. Et ce sera le traité de Rome et cette idée de marché qui s'appelle pas encore marché unique, mais l'idée est quand même là et les fondamentaux sont quand même là. Ce sera également la politique agricole commune avec cette idée qu'au fond, l'Europe peut accompagner de manière judicieuse, et les Européens peuvent accompagner de manière judicieuse, la reconstruction de l'Europe tout en assumant une reconstruction de l'agriculture européenne, une modernisation de l'agriculture européenne. Et si je vous dis tout ça, c'est parce que bien, les objectifs initiaux de la politique agricole commune, ils étaient véritablement là-dessus. C'est-à-dire comment peut-on assurer la souveraineté alimentaire de l'Union européenne, moderniser l'agriculture, et derrière le moderniser l'agriculture, il n'y avait pas uniquement la vision de moderniser pour moderniser, parce qu'après la guerre, on a envie d'être moderne, il y avait aussi la modernisation de l'agriculture, c'est l'augmentation des rendements, l'augmentation de la productivité, et donc de fait l'augmentation du revenu des agriculteurs européens et la capacité d'offrir aux agriculteurs européens la possibilité de vivre du produit de leur travail et de vivre du produit de la terre ou de l'élevage. Donc on est vraiment dans cette logique-là. Enfin, le troisième objectif qui est fixé à la politique agricole commune à cette époque-là, c'est l'idée également de stabiliser les marchés. Et là encore, en stabilisant les marchés, d'assurer des prix qui soient suffisants pour que l'agriculteur puisse vivre du produit de la terre et de l'élevage, mais également que le consommateur européen puisse accéder à une consommation, une alimentation qui soit de bonne qualité à un prix tout à fait soutenable pour le budget du consommateur. Donc vous voyez que les fondamentaux de la politique agricole, les fondamentaux de ce que devrait être l'agriculture dans une région et dans des pays modernes et progressistes, eh bien, sont toujours quelque part les mêmes. Alors, le bilan de cette politique agricole commune, c'est dans un premier temps un véritable succès. On a, grâce à cette politique agricole, une rénovation, une modernisation de l'agriculture européenne, une augmentation des rendements et de la production, qui va permettre non seulement très rapidement à l'Union européenne de devenir, alors ce n'est pas encore l'Union européenne, mais à l'Europe, de devenir autosuffisante en matière alimentaire, de ne plus dépendre de ses importations, donc souveraine en matière alimentaire, mais également au-delà du souverain, une Europe qui contre toute attente, et ça n'était absolument pas dans les objectifs initiaux de la politique agricole commune, de devenir une grande puissance agricole, et devenant une grande puissance agricole, de produire suffisamment pour pouvoir exporter. Et devenir un acteur majeur sur les marchés mondiaux de produits agricoles. Je vous ai mis, je pense que vous avez la diapo sous les yeux et que vous voyez très bien ce graphique, cette logique de puissance agricole mondiale reste encore aujourd'hui un élément extrêmement important, puisque vous voyez dans le petit graphique que je vous ai mis pour 2020, l'Europe est encore aujourd'hui la première puissance agricole au monde, devant, et on peut même dire relativement, notablement devant les États-Unis et largement devant le Brésil. Et ça, c'est un élément à garder en tête parce que aujourd'hui, dans la refonte de cette politique agricole, il y a tous ces éléments qui se percutent avec revenus probablement sur le devant de l'agenda, alors ça avait quelque peu disparu ces dernières années, la question de la souveraineté alimentaire et la question de la modernisation de cette agriculture, mais pas tellement pour qu'elle se modernise en tant que telle, mais pour qu'elle devienne plus compatible avec la lutte contre le changement climatique et avec le respect de l'environnement, on y revient dans un instant. Donc à partir des années 80, on entre dans une période où les succès de cette politique agricole deviennent un handicap, quelque part, pèse sur les marchés mondiaux, et donc je passe tout de suite à la diapositive suivante, l'évolution de la PAC jusqu'à aujourd'hui. Donc à partir des années 80, on voit s'enclencher un certain nombre de réformes de cette politique agricole parce que le succès de cette politique agricole constitue aussi une difficulté. Donc les réformes vont progressivement viser à une libéralisation de l'agriculture, à un soutien au départ aux petits producteurs et puis progressivement à l'intégration de critères environnementaux avec plus récemment des nouveaux défis économiques et environnementaux, notamment suite aux crises de surproduction. Alors, c'est au début des années 80 que l'on fait le premier constat des excédents de production, et on a tous été marqués par cette actualité européenne, par les quotas laitiers, les surplus de lait, etc. Mais au-delà des surplus et de la surproduction, la question que pose le défi que pose l'agriculture européenne à cette époque-là, c'est que la politique agricole, en soutenant la production européenne, parce que au départ, c'est bien ce qui était l'objectif et ce qu'il fallait faire, eh bien, elle l'entraîne des excédents de production qui, outre les excédents qu'elle limite, nous, Européens, avions les moyens de gérer, elle a pour conséquence d'entraîner des excédents de production sur les marchés mondiaux et donc de faire baisser très fortement les prix des produits agricoles sur les marchés mondiaux, avec une double conséquence de cette baisse des prix sur les marchés agricoles. La première, bien, c'est pour nos propres agriculteurs qui ont beau vendre leur production sur les marchés mondiaux, se retrouvent avec des revenus qui sont plutôt en tendance en baisse, parce que les prix sur les marchés mondiaux sont assez bas. Pendant très longtemps, la politique agricole a soutenu les prix, ou a garanti les prix. Donc, bien évidemment, cette conséquence négative n'apparaissait pas, mais la conséquence qui apparaissait immédiatement, c'est que, bien évidemment, la politique agricole coûtait toujours plus cher, puisqu'il fallait toujours plus soutenir, garantir les prix et garantir des prix toujours plus bas. La deuxième conséquence qui a été, et qui a encore aujourd'hui des effets pervers sur un certain nombre de pays, et on y reviendra dans un instant, c'est le fait qu'en cassant les prix sur les marchés mondiaux, eh bien, pour un certain nombre de pays, il est devenu bien plus avantageux d'importer des produits agricoles, et je pense en particulier aux pays africains, qui vont construire à partir des années 80, à cette période-là, qui vont construire une très forte dépendance à leurs importations de produits alimentaires, et on l'a vu au moment de la guerre en Russie, très forte dépendance qui va bien évidemment avoir des conséquences extrêmement lourdes sur leur accès à l'alimentation, sur leur souveraineté alimentaire. On a vu dans les années 80, 90 et encore aujourd'hui, parce que les prix sont restés relativement bas sur les marchés mondiaux, on a vu un certain nombre de pays voir la part de leur production agricole diminuer très fortement, sans qu'il y ait en retour en fait de compensation par d'autres productions. Donc un fort affaiblissement. Ce qu'il faut bien réaliser en fait sur les marchés mondiaux des produits agricoles, et ça vaut pour toutes les matières premières, c'est que vous avez toujours sur ces marchés des grandes puissances, et l'Europe est une grande puissance agricole, donc des grandes puissances qui sont positionnées sur plusieurs marchés, ont accès à plusieurs marchés, sans compenser la baisse d'un marché par un autre, ont quand même un pouvoir d'influence de ces marchés qui reste relativement fort. Face à ces grandes puissances, les pays en développement sont souvent monoproduits, souvent spécialisés sur une production, et donc extrêmement sensibles aux variations de prix, et d'autant plus sensibles aux variations de prix qui n'ont aucun impact sur ces prix et sur les marchés, parce qu'ils ont des productions qui sont bien trop faibles. Je me souviens, alors je n'ai pas vraiment regardé les statistiques, et je vais pas vous dire les statistiques actuelles, mais au début des années 2000, vous aviez certains pays africains, donc quasiment la moitié de leur produit intérieur brut, de leur richesse nationale, dépendait de leur production de coton, et en même temps, ils représentaient moins de 20% du marché mondial de coton. Donc on voit cette inégalité, cette difficulté. Donc c'est à partir de 1900, du tout début des années 90, de 1990, que pour compenser ces effets pervers, la politique agricole commune commence à se réformer et à passer d'un soutien au marché à un soutien à l'agriculture. C'est aussi à ce moment-là que l'on va voir poindre les premières orientations et les premiers objectifs environnementaux. Les réformes vont ensuite se multiplier. 2003, c'est l'engagement que prend l'Union européenne à l'OMC. Vous savez que l'Union européenne, c'est elle qui négocie à l'OMC, puisque la politique commerciale est une politique européenne, est une politique commune. On ne dit politique, la politique agricole, il n'y a pas beaucoup des politiques communes, mais la politique agricole et la politique commerciale en font partie. Et donc, les Européens s'engagent en 2003 sous la pression de ce qu'on appelait à l'époque le G1+, c'est donc un groupe de 20 pays en développement qui demande aux États-Unis et à l'Europe de renoncer à subventionner leurs exportations, parce que ces subventions aux exportations déséquilibrent les marchés mondiaux, font baisser les prix sur les marchés mondiaux, au détriment de l'agriculture de ces pays en développement. Et donc, en 2003, à Cancun, la conférence annuelle de l'OMC, l'Union européenne prend l'engagement de cette réforme qu'elle mènera à bien ensuite pour réduire les subventions aux exportations. Les réformes vont ensuite se multiplier et jusqu'à les dernières contraintes, c'est comment faire évoluer la politique agricole commune pour qu'elle soit compatible avec le pacte vert. Donc on va voir la mise en place de la stratégie dont on parlera tout à l'heure, de la ferme à la table, et progressivement évidemment une partie de déplage de la politique agricole commune qui devient moins commune et en partie renationalisée. Je passe à la diapositive suivante. Alors la politique agricole commune, c'est quoi? Ce sont des moyens qui sont investis dans l'agriculture. Et vous voyez sur ce graphique de l'impact en Europe, vous voyez que la France est le premier bénéficiaire des aides de la PAC. En 2022, la France a reçu l'agriculture française a reçu 9,5 milliards d'euros de subventions pour son agriculture, tout de suite suivi par l'Espagne, qui est le deuxième pays bénéficiaire, l'Allemagne, et dans les cinq premiers, on retrouve évidemment l'Italie et la Pologne, donc les cinq grands pays, et on voit un loin devant tous les autres, bien évidemment, les cinq grands pays, les cinq grandes puissances agricoles de l'Union européenne, ce sont ces cinq pays, France en tête, mais également Allemagne, Espagne, Italie et Pologne. Et je passe à la diapo suivante sur les 10 objectifs de la politique agricole commune aujourd'hui. Donc, la politique agricole commune 2023-2027, c'est doté entre 2023 et 2027 de 264 milliards d'euros de soutien, dont 45 qui sont destinés à la France. Ça représente un tiers du budget total de l'Union européenne. C'est vrai que c'est toute la difficulté de la politique agricole, c'est qu'elle représentait une part très majoritaire du budget de l'Union européenne il y a quelques années, que cette part tend à diminuer parce que les besoins de financement se multiplient sur d'autres sujets et d'autres dossiers, avec en même temps, et comme c'est souvent le cas depuis une vingtaine d'années, c'est qu'on veut toujours distribuer plus d'argent pour financer plus de choses, sans pour autant vouloir augmenter la masse de financement et le budget. Et donc, bien évidemment, ça a des conséquences immédiates, c'est qu'on redistribue de plus petits montants sur les priorités. Donc on voit progressivement la part de la politique agricole commune diminuer dans le budget total de l'Union européenne, avec des conséquences, bien évidemment, qui sont extrêmement préjudiciables à cette agriculture, surtout dans un temps, et on y revient dans un instant, où il faudrait au contraire investir très largement dans la modernisation ou l'adaptation de cette agriculture au changement climatique et aux conséquences de ce changement climatique, à la fois pour aller vers la neutralité carbone, mais aussi pour adapter l'agriculture aux conséquences du changement climatique qui sont extrêmement fortes, extrêmement notables. Les dernières réformes de la politique agricole commune ont conduit à articuler cette politique agricole autour de deux grands piliers, les paiements directs aux agriculteurs, qui représentent aujourd'hui entre 70 et 75% de la dépense de cette politique agricole commune, et puis le développement rural en deuxième pilier. Je passe à la diapositive suivante pour vous expliquer ce qu'est l'agriculture européenne aujourd'hui. Donc l'agriculture européenne aujourd'hui, les grandes productions des terres agricoles en pourcentage, vous voyez, trois grandes productions, le blé, la betterave et les légumes, suivis de près par le maïs, l'orge et la pomme de terre, donc qui sont les six plus grandes, plus importantes productions agricoles en Europe. Et c'est des productions production sur lesquelles les Européens et les pays européens sont parmi les leaders mondiaux de ces productions. Je passe à la diapositive suivante sur l'agriculture biologique, puisque la politique agricole commune a fixé des objectifs en termes de production d'agriculture biologique, dont on est encore très 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 loin du compte. On a aujourd'hui à peine un petit peu moins de 10% des terres agricoles en Europe qui sont des surfaces agricoles consacrées à l'agriculture biologique, avec un léger retard pour la France qui est en dessous de la moyenne européenne. Donc l'adaptation de l'agriculture est encore largement en retard en Europe, l'objectif fixé étant de 25% dans les années à venir. Donc on a encore beaucoup, beaucoup d'investissements à faire, avec tous les questionnements qui se posent autour du prix de ces produits agricoles produits par l'agriculture biologique et, encore une fois, de l'accès et de la capacité des consommateurs européens de s'offrir cette agriculture biologique. Je passe à la diapo suivante en concluant sur cet aspect-là, c'est qu'on a, sur le sujet de l'agriculture biologique, on matérialise toutes les difficultés et les contradictions de cette politique agricole, une politique agricole qui est pleine de bonne volonté pour aller dans une direction qui permettrait d'arbitrer, de gérer les contraintes liées au changement climatique, à la transition vers une économie bas carbone, et en même temps des investissements qui sont insuffisants ou insuffisamment définis pour assurer que cette agriculture, cette nouvelle agriculture, trouvera les débouchés et que les consommateurs européens auront les moyens de s'offrir ces produits et en même temps que l'agriculteur aura les moyens de vivre du produit de sa terre. C'est l'un des enjeux. Alors on aborde justement tous ces enjeux de la politique agricole commune. Je vous ai parlé de sécurité et de souveraineté alimentaire, mais également de défis climatiques et environnementaux. Alors, la souveraineté alimentaire, de quoi parle-t-on en fait hein? On a beaucoup de sujets, beaucoup de dossiers qui se percutent quand il est question de ces sujets-là, à ne pas confondre bien évidemment la question de la sécurité alimentaire, qui est pour l'instant une situation où tout le monde, chaque personne à tout moment, a économiquement, socialement et physiquement accès à une alimentation suffisante, saine et nutritive, qui lui permettra de satisfaire ses besoins. La dépendance alimentaire, ça questionne la situation d'un pays ou d'un territoire lorsqu'il doit acheter de la nourriture à l'étranger pour couvrir les besoins de sa population. Et enfin, la souveraineté alimentaire, c'est un concept qui a été développé il y a quelques années, puisque c'était au milieu des années 90 par la Via Campesina lors du sommet de l'alimentation qui était organisée par la FAO, elle est présentée comme un droit international qui doit laisser la possibilité aux populations, aux États ou aux groupes d'États de mettre en place des politiques agricoles qui vont être plus adaptées à la population et aux défis auxquels fait face l'agriculture dans le pays. Donc, pour rappel aussi, le droit à l'alimentation est un droit humain depuis l'adoption de la Charte universelle en 1948. Et c'est aussi le deuxième objectif de développement durable, puisque ce deuxième objectif vise à éradiquer la faim dans le monde à l'horizon 2030. Je passe à la diapo suivante pour un exemple de cette dépendance alimentaire. Alors, je vais un petit peu élargir mon spectre, je vais un petit peu sortir de la seule Europe pour montrer que la question de la souveraineté alimentaire n'est pas juste une question européo-centrée ou nationalo-centrée, c'est une question globale aujourd'hui qui se pose pour diverses raisons. Donc on a vécu ces dernières décennies avec finalement progressivement l'augmentation des rendements de la terre qui ont permis de lutter contre les famines et de lutter contre les pénuries alimentaires. Moi j'ai bien rappelé, à remonter trop loin, je ne vais pas passer trop de temps, mais j'aime bien rappeler que la dernière crise de l'Ancien Régime, donc avant la Révolution française au XVIIIe siècle, la dernière crise de l'Ancien Régime était directement liée à des conditions météo extrêmement mauvaise pendant plusieurs mois. Il me semble que c'était déjà une histoire du volcan islandais à l'époque. entraîner une baisse des rendements agricoles, donc une baisse de la production agricole, et cette crise avait décimé 10% de la population française. Donc on voit que la dépendance alimentaire, la souveraineté alimentaire n'était en rien acquise dans l'ancien régime. Et c'est vrai que la révolution industrielle, avant d'être une révolution industrielle, a été aussi une révolution agricole. C'est que le progrès technique a permis, à partir du 19e siècle, une augmentation très forte des rendements agricoles, qui a entraîné un exode rural, parce qu'on produisait beaucoup plus, avec beaucoup moins de bras, beaucoup moins de main-d'œuvre, donc on libérait la main-d'œuvre qui a pu aller travailler dans les villes, dans des industries et initier la révolution industrielle. C'est ce qui a aussi été renforcé avec les politiques agricoles en Europe, aux États-Unis et dans les grandes économies développées. Et on l'a vu avec les politiques agricoles communes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce soutien public qui a assuré la modernisation des politiques agricoles et qui a accompagné une augmentation encore plus importante des rendements. À partir des années 90, finalement, la logique change. Le début des années 90, c'est la fin de la guerre froide. Et la fin de la guerre froide, c'est quoi ? Eh bien, c'est la première fois que l'on est dans une configuration où le marché peut devenir mondial. Et les marchés mondiaux, effectivement, s'accroissent et connaissent un essor évident. Et donc, on entre dans une époque que moi j'appelle l'ère de l'abondance, où au fond, tout ce qu'on n'a pas sur son territoire et qu'on n'est pas en capacité de produire, ou même, encore pire que ça, tout ce qu'on considère trop coûteux à produire sur le territoire national, eh bien, on se le fournit via le commerce et via les importations. Donc on crée ce qu'on appelle une dépendance agricole liée au commerce. Dépendance agricole qui va dans les deux sens d'ailleurs. Hein. C'est non seulement on importe de plus en plus une part de plus en plus importante de notre alimentation, mais dans le même temps, les agriculteurs sont de plus en plus dépendants des marchés internationaux et de plus en plus dépendants de leurs exportations. Donc tout ça est accompagné par les politiques agricoles et donne une certaine illusion de l'abondance. Et vous voyez sur le petit graphique qui meuble cette diapositive, vous voyez comment à partir de 1950, après donc la Seconde Guerre mondiale, les politiques agricoles se sont adaptées pour soutenir de manière toujours plus efficace l'augmentation de la production agricole, et on voit que l'augmentation de la production agricole a été extrêmement forte, permettant finalement à une grande partie de la population d'accéder à l'alimentation, soit par la production locale, mais le plus souvent par le commerce, oubliant de fait les questions de souveraineté alimentaire, parce qu'au fond, le commerce fonctionnant bien, les marchés étant abondants, la production étant abondante, les marchés peuvent fournir l'alimentation nécessaire, et la question de la souveraineté n'est absolument plus un sujet, n'est absolument plus une question. Je passe à la diapositive suivante, donc c'est ce que j'ai appelé l'illusion d'abondance, avec une réduction très nette et massive de la très grande pauvreté. La très grande pauvreté, c'était près de 40% de la population mondiale au début du XXe siècle, c'est moins de 10% aujourd'hui. L'autre conséquence, et ça, ça fait écho à une diapo, à un sujet dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, c'est que l'augmentation des rendements agricoles a permis l'exode rural et a permis l'urbanisation avec l'amplification de la taille des villes, et c'est encore un phénomène qui est en cours, hein, c'est un phénomène que nous avons connu il y a quelques décennies, mais c'est un phénomène qui est encore très, très fort dans un certain nombre de pays du Sud. Une classe moyenne en extension se sent, c'est toujours plus de villes, et donc une partie toujours plus importante de la population à alimenter. Donc, vous voyez les chiffres, hein, 1,8 milliard d'individus vivaient et faisaient partie de la classe moyenne depuis les années 2000, c'est 5 milliards en 2030. Et là, on touche aussi tout le paradoxe auquel fait face l'agriculture aujourd'hui, c'est que l'augmentation des rendements, elle a permis à une partie toujours plus importante de la population mondiale d'accéder à cette classe moyenne, qui est la classe moyenne, ça se définit comme cette partie de la population qui peut vivre sans avoir de préoccupation quant à son accès à une alimentation saine, à à des besoins fondamentaux, en fait, et peut assouvir ces besoins fondamentaux, et au-delà, pour bénéficier de consommation moins fondamentale. Donc, bien évidemment, ça a été une réalité, et en même temps, on a vu poindre sous cette permanence un gaspillage toujours croissant. Comme je vous ai mis sur la diapo, un tiers de notre production alimentaire est gaspillée dans nos pays. Et vous avez, pour illustrer le petit graphique qui est à côté, ça représente 1,3 milliard de tonnes de nourriture gaspillée, bien évidemment. Donc c'est quelque chose d'assez énorme dans le monde. Ce qui représente, vous voyez, quasiment la moitié de la production de fruits et légumes, 35% de la production de poissons et de produits de la mer, de céréales. Et là, ça fait écho aussi à ce dont on va parler dans un instant, c'est la question environnementale. C'est que ce gaspillage, nous en dit long aussi sur la façon dont on surexploite la ressource naturelle et dont on la met en péril avec, in fine, la mise en péril de l'espèce humaine en tant que telle. Je vais passer tout de suite à la diapositive suivante. Donc cette abondance, elle n'a malgré tout pas été le cas pour tout le monde. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc on voit que l'agriculture vivrière dans les pays du Sud a été largement décimée par un demi-siècle de politique agricole et de domination des marchés agricoles, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur ces populations qui sont aujourd'hui extrêmement précarisées. Je passe à la diapositive suivante, puisque vous voyez sur cette diapositive l'inégalité certaine face aux dépendances, avec une importation de nourriture qui a largement dépassé la croissance du produit intérieur brut. Le GDP, c'est le revenu national, le produit intérieur brut, de manière bien plus importante, bien évidemment, que dans les pays développés. Je vais passer à la diapositive suivante. Donc, en France et en Europe, j'ai trouvé cet exemple sur le territoire lyonnais. Sur le territoire lyonnais, en 2022, 70% des produits qui étaient distribués dans les commerces étaient importés. Et c'est 90% pour les produits distribués dans la restauration, donc une autonomie alimentaire qui est extrêmement faible, qui est ventilée en fonction des produits, pour les légumes, pour les élevages, etc. Donc tout ce paradoxe aujourd'hui qui se pose à l'agriculture en Europe, une agriculture qui fait de nous une grande puissance agricole, et en même temps une Europe qui est extrêmement dépendante de ses importations, donc qui a probablement les moyens de sa souveraineté, et en même temps qui reste extrêmement dépendant de ses marchés internationaux. Je vais passer tout de suite à la diapositive suivante, avec, je vous le disais, toute la conséquence de cette dépendance au marché étranger qui est liée au fait que sur les produits agricoles, et malgré des initiatives qui ont été prises après la crise de 2008 par les pays du G20, des marchés agricoles qui restent encore terriblement spéculatifs. On spécule sur ces marchés agricoles, et quand on dit spéculer, ce ne sont pas les agriculteurs, ce ne sont pas les consommateurs, c'est vraiment des acteurs financiers qui spéculent sur la baisse ou l'augmentation des prix des produits alimentaires, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Et vous voyez que cette spéculation, elle a eu des conséquences extrêmement fortes au moment de la crise financière de 2008-2009, au moment de la crise du Covid, bien évidemment, au moment de la guerre en Ukraine également. On sait que au-delà de la guerre en Ukraine, c'est aussi l'action de ces spéculateurs sur les marchés mondiaux qui a pu entraîner l'envolée des prix tels que nous les avons connus. La conséquence de cette spéculation, c'est que les prix sont extrêmement volatiles sur les marchés mondiaux, créant des difficultés à la fois pour les agriculteurs qui ne savent jamais lorsqu'ils sèment ou lorsqu'ils lancent une production, à quel tarif ils vont pouvoir écouler cette production, ce qui est extrêmement préjudiciable, puisque vous savez combien vous investissez, mais vous ne savez jamais combien vous allez récupérer. Et c'est aussi l'un des défis de la politique.
côté de la chaîne alimentaire, vous avez le consommateur qui lui aussi voit les prix s'envoler à certaines périodes sur certains produits, et puis quelques mois plus tard ou quelques années plus tard, les prix redescendent. Donc une extrême volatilité sur des produits de première nécessité. Donc la question de la souveraineté alimentaire, elle ne se pose pas uniquement en termes de quantité, elle se pose aussi par rapport à ses prix et par rapport à la stabilisation de ses marchés. Bien évidemment, je vous permets de vous en parler parce que c'est un vrai sujet, qui a été saisi encore une fois au moment de la crise financière de 2008. Je crois que c'est notre président de l'époque, Nicolas Sarkozy, qui avait posé à l'agenda du G20, donc cette réunion des 20 plus grandes économies de la planète, l'idée qu'il fallait œuvrer pour limiter la spéculation sur ces marchés agricoles, parce que derrière cette spéculation, c'est des gens qui ont du mal à avoir accès à l'alimentation, voire des famines qui peuvent se produire. Et en même temps, aujourd'hui, ça ne paraît plus être tant un sujet que ça, puisque plus personne n'en parle et plus personne ne s'y attend. Donc je passe tout de suite à la diapositive suivante sur les puissances agricoles dans le monde. Alors l'autre caractéristique de l'agriculture dans le monde, et je vous disais que l'Europe était une grande puissance agricole, c'est que la production agricole reste quand même très concentrée dans un nombre très limité de pays. Donc on le voit sur cette diapo avec ces 11 grands acteurs mondiaux de la planète, et vous voyez que la France et l'Allemagne font jeu égal avec les États-Unis ou le Canada. On est plutôt bien placé, et l'Europe étant la première puissance commerciale mondiale, ça je le disais. Donc c'est une réalité, et sur un certain nombre de produits, on retrouve les produits dont je vous parlais tout à l'heure. Mais je passe à la diapositive suivante. Si vous prenez, j'ai pris trois produits caractéristiques, les produits importants de notre agriculture, et bien vous retrouvez, et c'est en ça que l'agriculture présente aussi des enjeux géopolitiques extrêmement forts. Donc vous retrouvez la diapositive suivante sur le maïs, vous voyez que les premiers producteurs sont ces grandes puissances que sont les États-Unis, la Chine et le Brésil. Si on passe à présent sur la diapo suivante et le blé, eh bien on retrouve la Chine, l'Inde, la Russie, les États-Unis, la France juste derrière, mais on retrouve toujours les mêmes puissances et ces grandes puissances agricoles sur les marchés mondiaux. Et enfin, je vais passer aux grands producteurs de riz. Donc là, on retrouve plutôt les pays asiatiques, mais encore une fois, la Chine et l'Inde. Et un certain nombre de pays. Donc on voit que la particularité de ces marchés et ce qui crée le questionnement autour de la souveraineté alimentaire, c'est que bien évidemment ce sont des marchés très géopolitiques et géopolitisés. Donc là une petite carte, diapo suivante, sur la balance commerciale des produits alimentaires pour vous montrer où sont les enjeux de souveraineté. Et on voit qu'en Europe, en fait, on a des situations extrêmement disparates, avec les ronds bleus, c'est les pays qui sont souverains et qui exportent, donc qui produisent plus d'alimentation, plus de produits agricoles qu'ils n'en consomment et donc qui peuvent exporter. Mais on voit qu'en Europe, on a une situation qui est très mitigée, avec des pays comme la France, comme l'Allemagne, qui sont de grandes puissances agricoles et qui exportent une grande partie de leur production agricole, et puis des pays comme le Royaume-Uni, par exemple, qui sont beaucoup plus dépendants de leurs importations. Mais on voit, et surtout je trouve que ce qui est intéressant sur cette carte, c'est de voir où sont les fragilités. Et on voit qu'une fois plus, l'Afrique et les pays du Golfe, le Moyen-Orient, sont extrêmement dépendants de leurs importations de produits agricoles, extrêmement peu souvent. Et ça se retrouve, et c'est la diapo suivante, et ça s'est retrouvé complètement dans au début de la guerre en Ukraine, avec des pays africains qui avaient de grandes difficultés à s'approvisionner, voire à supporter l'augmentation des prix des produits agricoles. Je vous donne sur cette diapo l'exemple du Kenya, où 45% des exportations de blé proviennent de la Russie et de l'Ukraine. Au Bénin, c'est 100%, en Égypte, c'est 50% de blé qui vient de la Russie, 30% qui vient de l'Ukraine. Au Liban, 90%, et ainsi de suite. Et vous voyez les conséquences que ces dépendances alimentaires peuvent avoir sur les situations économiques et politiques. type de CPI. Donc je passe à la diapo suivante, c'est un peu la même chose, donc je vais passer très très vite, c'est sur la dépendance et c'est la gens particulièrement vulnérables. Je vais également passer le « et demain » avec la dimension géopolitique de l'agriculture, parce que c'est aussi face à ça, pour avancer peut-être sur la question agricole européenne, et donc sur le changement climatique. Alors, le changement climatique, c'est la diapo 26, je ne sais pas si vous savez. Le changement climatique, j'ai identifié les différentes conséquences du changement climatique, et puis en deuxième, on verra sur une diapo suivante, combien l'agriculture impacte aussi a un impact sur l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, sur le changement climatique, on a un double défi en fait pour l'agriculture européenne. Le premier défi, c'est le défi de l'adaptation au changement climatique et aux conséquences de ce changement climatique. Et en même temps, le deuxième défi, c'est l'évolution de l'agriculture vers une agriculture qui est plus respectueuse de l'environnement. Et c'est très très compliqué parce que l'adaptation, elle a déjà commencé. Et les conséquences du changement climatique, elles sont déjà très perceptibles pour les agriculteurs, et donc elles ont un coût réel pour les agriculteurs, avec une politique agricole qui s'est inscrite dans le pacte vert, mais qui en même temps relativement prend en charge les conséquences de ce changement climatique, mais dans des termes, des moyens au long terme, là où les conséquences sont immédiates. Et en même temps, l'agriculture doit progressivement s'adapter pour avoir de moins en moins d'impact sur son environnement, être de plus en plus respectueuse de l'environnement. Et ça suppose des investissements tout de suite pour des effets qui seront perceptibles à long terme. En gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on vit le changement climatique et ses conséquences. On est obligé de s'adapter et donc d'investir pour s'adapter ou de subir les conséquences financières qu'a ce changement climatique sur l'agriculture. En même temps, on est bien obligé, si on ne veut pas que ça dure éternellement, on est bien obligé d'investir pour que notre agriculture soit demain plus respectueuse de l'environnement, mais les moyens ne sont pas au rendez-vous, et comme je vous disais au tout début, la politique agricole commune voit quand même son budget qui se réduit au fil des réformes, alors même que les défis sont énormes. Alors, on en parlera sûrement, et j'imagine que ce seront de vos questions. Moi, pour suivre les questions européennes, c'est sur tous les sujets que c'est là, c'est-à-dire, à partir du moment où on investit de moins en moins, on utilise de moins en moins de ressources, alors que les besoins financiers sont de plus en plus importants, vous ne répondez absolument pas aux défis, vous n'êtes pas du tout à la hauteur. Alors, quelles sont les conséquences pour donner une typologie des conséquences? Les conséquences du changement climatique sur l'agriculture européenne. Et ce qu'il faut noter aussi, je ne vous l'ai pas encore dit, c'est qu'on a longtemps conclu, et les rapports du GIEC d'ailleurs étaient plutôt dans ce sens-là, depuis une quinzaine d'années, on a longtemps cru que les territoires tempérés, donc l'Europe et le territoire européen, les territoires tempérés seraient moins concernés par le changement climatique. On aurait une élévation des températures de quelques degrés, peut-être quelques catastrophes naturelles un peu plus nombreuses que par le passé, mais on a pensé que les pays qui seraient les plus affectés par le changement climatique et ceux qui subissaient déjà des conditions climatiques extrêmement difficiles. On s'aperçoit depuis une quinzaine d'années, c'est particulièrement notable et perceptible dans le dernier rapport du GIEC, je crois que les premiers éléments ont été publiés. Alors, autant passe tellement vite pour que j'ai plus les dates en tête, mais ça veut dire il y a à peu près 5 ans. On s'aperçoit qu'en réalité, contre toute attente, les régions les plus tempérées sont aussi celles qui subissent le plus directement le changement climatique. L'exemple qu'on cite souvent, c'est l'exemple de la Pologne, qui connaît aujourd'hui des périodes de canicule de plus en plus longues, alors que la canicule n'existait pas en Pologne à l'été, avec des conséquences sur et sur l'environnement des terres qui sont de plus en plus fortes. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement, qui est presque une surprise et auquel on ne s'est pas préparé. Donc l'adaptation au changement climatique et l'accompagnement des agriculteurs dans cette adaptation va être bien plus importante qu'on ne l'imaginait au départ, parce que les territoires tempérés, encore une fois, subissent encore plus fortement le changement climatique. Quand vous êtes dans le désert, vous êtes dans le désert, vous avez chaud, c'est comme ça. ça, de toute façon, les graines qui poussaient dans le désert, donc quelques degrés de plus, ça ne change pas grand-chose, alors que dans les territoires tempérés, à quelques degrés de différence, ça change. Donc il y a bien évidemment la première conséquence, c'est la modification des rendements agricoles, avec les sécheresses, les catastrophes naturelles, toutes les conséquences, en fait, hein, les aléas, j'ai cherché les mots, les aléas climatiques qui modifient très fortement les rendements agricoles. La deuxième conséquence, c'est l'érosion et la dégradation des sols qui s'accélèrent. La troisième conséquence, le changement des saisons agricoles, et puis des risques accrus pour la sécurité alimentaire, bien évidemment avec... alors, dans les modifications des rendements, je voulais évoquer aussi les parasites, hein, la multiplication des parasites, parce que plus d'humidité à certaines périodes, et moins de froid en hiver, et puis une certaine migration des cultures. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, ça c'est un premier, l'adaptation oblige à des premiers investissements. Ce changement climatique, hein, modifie les équilibres partout dans le monde, autour des pertes de récoltes liées aux sécheresses et aux canicules. Et vous voyez que sur cette carte du GIEC, alors je crois que ce n'est pas le dernier rapport, mais déjà on avait oublié les pays du Nord, parce qu'au fond les pays du Nord c'est des climats tempérés, ils ne sont pas directement concernés, mais il est bien évident qu'on se rend compte aujourd'hui que ça n'est absolument pas le cas. Donc dans le cas du changement climatique et Europe, la particularité en plus de l'Union européenne, c'est que les agriculteurs ne sont pas confrontés aux mêmes défis liés au changement climatique. Partout en Europe, hein, dans le sud de l'Europe, vous avez des problèmes de disponibilité en eau. Je vous rappelle que depuis plus de 18 mois aujourd'hui, la région de la Catalogne est alimentée, est approvisionnée en eau par des bateaux qui font la navette entre Marseille et Barcelone. Des risques de sécheresse dans le sud et de canicule, des risques importants d'érosion des sols. Et une baisse des superficies cultivées ou cultivables, bien évidemment. Dans les pays d'Europe centrale, vous avez des défis différents qui sont liés aux risques d'inondations, de pluie, de tempêtes et autres, de la même manière que dans les pays scandinaves. Et dans les pays de l'Europe occidentale du Nord, je pense au Royaume-Uni, à l'Allemagne, vous avez des risques d'inondation, des étés qui sont plus chauds et plus secs, la montée des niveaux de la mer, la multiplication des maladies et des parasites, et les rendements de certaines cultures qui sont en baisse et d'autres qui s'amplifient, bien évidemment. Donc il y a aussi des opportunités, mais qui nécessitent des investissements et une adaptation. Voici la carte mondiale des pénuries d'eau. Et donc on voit que les pénuries d'eau concernent une grande partie des pays de l'Union européenne, avec l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Grèce, qui sont confrontés à un risque extrême, élevé, voire extrême, de pénuries d'eau. Mais on voit que la France, la Pologne, dont je parlais tout à l'heure, ou le Royaume-Uni, sont aussi concernés par des pénuries d'eau, avec un risque qui est de moyen à élevé à l'horizon 2040. Donc un véritable, encore une fois, un véritable défi d'adaptation. Donc, concernant la responsabilité et la nécessaire adaptation de l'agriculture pour limiter la dégradation de l'environnement, quelques éléments, donc 10% des émissions de gaz à effet de serre en Europe sont directement liées à la production agricole. Bien évidemment, l'agriculture, alors c'est moins le cas en Europe, mais pour être très complète, je dirais la conséquence, l'agriculture entraîne la déforestation et le changement des utilisations des terres. Alors c'est moins le cas en Europe, mais quand ça accélère le changement climatique, ça a bien évidemment aussi des conséquences partout dans le monde, la dégradation du sol, la pollution de l'eau et des sols, on a déjà pas beaucoup d'eau, mais en plus elle est plus polluée, et puis la réduction de la biodiversité, qui va être bien évidemment un défi très important pour l'agriculture. Alors voici ce que sont les émissions de CO2 issues de l'agriculture en Europe. Bien évidemment, c'est directement corrélé à la part de la production agricole, et on retrouve parmi les premières régions, eh bien, les 5 pays qui bénéficient le plus des subventions de la politique agricole commune, et c'est là qu'ils en bénéficient pas parce qu'ils sont inévités, ils en bénéficient parce que bien évidemment, ils sont les grandes puissances agricoles européennes, donc là, pour l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, on voit que tout est directement lié en Europe. Ça, c'est la question des pesticides, mais comme le temps passe, je vais passer assez vite. De toute façon, vous avez ma présentation et vous pourrez la distribuer. Là aussi, on retrouve toujours les mêmes pays, bien évidemment. Donc on voit que la corrélation entre la production agricole et les défis liés à la protection de l'environnement sont étroitement liés, avec toujours la difficulté de négocier l'évolution de la politique agricole commune, puisque bien évidemment les enjeux et les intérêts nationaux sont extrêmement forts, et d'autant plus forts que vous êtes aussi soutenu par la politique agricole commune. Vous avez un autre, outre la souveraineté alimentaire, le changement climatique, et c'est un peu la conclusion de ce que l'on vient de vous présenter, vous avez une autre difficulté pour la politique agricole et l'adaptation de cette politique agricole à ces grands défis, c'est que l'agriculture en Europe est très diversifiée. Elle le sera probablement encore plus le jour où l'Ukraine entre dans l'Union européenne, mais bon, c'est pas encore à l'agenda de moyen terme, parce que vous avez de grandes différences entre les petites exploitations familiales et les grandes entreprises agricoles, très présentes sur les marchés internationaux, qui sont soutenues. Il n'y a pas la granularité de la politique agricole, et probablement, même si c'est en pleine évolution, est probablement encore insuffisant pour répondre à tous ces défis entre une petite exploitation familiale qui finalement participe à l'aménagement d'un territoire, à la survie d'un territoire, mais avec des contraintes qui lui sont propres et des rendements bien évidemment et un retour sur investissement et des revenus qui restent très limités, et les grandes entreprises agricoles qui jouent sur les marchés mondiaux et qui profitent directement de la globalisation de l'agriculture, vous avez des différences qui sont majeures et qui sont encore trop insuffisamment prises en compte par la politique agricole, même si on est en voie d'évoluer sur ce sujet-là en fonction des régions. Donc sur le pacte vert et la PAC, donc vous l'avez, je passe à la diapositive sur les réformes de la PAC et leurs objectifs. Donc les dernières réformes de la PAC, comme on l'a déjà dit, ont commencé à inclure les critères de durabilité, une agriculture plus verte, la préservation de la biodiversité, la réduction des gaz à effet de serre, avec l'introduction de l'éco-conditionnalité et de paiement pour les pratiques respectueuses de l'environnement, mais bien évidemment avec toute la difficulté d'articuler tous les défis auxquels font face les agriculteurs, auxquels face l'agriculture. Donc le pacte vert, c'est la diapo suivante. Le pacte vert a présenté un certain nombre d'objectifs environnementaux, la neutralité carbone d'ici à 2050. Il a introduit la stratégie de la ferme à la table, qui vise à assurer une production de qualité pour une alimentation saine et porteuse de santé, la protection des écosystèmes. Mais on voit que les tensions sont énormes entre la production agricole, cette dépendance aux marchés internationaux et ces questions de durabilité et d'adaptation au changement climatique, puisque ça entraîne à la fois des contraintes supplémentaires alors qu'ils sont déjà directement confrontés à une concurrence mondiale. C'est d'ailleurs tout le défi qui est posé aux institutions qui viennent de se mettre en place suite aux élections européennes, comment aujourd'hui assurer la capacité de l'agriculture, la capacité de la politique agricole commune à accompagner l'agriculture vers une agriculture plus durable et en même temps à assurer aux agriculteurs un niveau de vie décent et la capacité à vivre de leur travail. Donc si je reviens sur un autre élément de la stratégie bio, c'est la stratégie bio en faveur de la biodiversité. Là aussi, avec un certain nombre d'objectifs qui ont été fixés, des engagements qui sont ambitieux, mais qui, encore une fois, créent des contraintes supplémentaires aux agriculteurs dans un contexte où, en parallèle, ils sont directement concurrencés par les marchés mondiaux et la compétition internationale. Et alors que, on en parlera probablement dans les questions, que dans un certain nombre d'accords commerciaux que l'on peut avoir négociés au niveau européen, on a souvent utilisé l'agriculture comme la variable d'ajustement. alors même que bien évidemment la question de la souveraineté alimentaire se posait systématiquement. Donc je vous ai mis, mais je vois que le temps imparti était passé, et je répondrai peut-être aux questions, que vous avez mis également les grands objectifs et les grandes mesures de la stratégie de la ferme à la table. Et donc pour conclure, eh bien je voulais terminer, je crois que c'est ma dernière chose aux questions, donc sur le mot d'espoir de Jean-Marc Castel, qui repositionne en fait l'agriculture dans le développement humain, et qui expliquait que la question de la faim dans le monde est finalement juste une question de volonté politique et d'accompagnement correct des agriculteurs, puisque la plupart de la faim n'existe quasiment pas dans les pays démocratiques, et qu'elle apparaît pour des questions politiques. Donc je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour les questions et les discussions.
Alors, un immense merci. Sylvie Matéli, est-ce que vous m'entendez ?
Je vous entends très bien.
Ah, très bien, ok. Ça mérite de remonter sur scène et de me plier sous l'écran. Peut-être qu'on vous laisse 3 minutes pour ce matin, histoire de formuler votre question. Admirer le PowerPoint, mais là, je vais vous voir, c'est quand même mieux.